Chers frères et sœurs dans le Messie Yeshua, je vous salue. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez ce message. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2022 et nous sommes ici au 5e jour de l'offensive russe en Ukraine. Et les sanctions européennes cessent de pleuvoir. Et même la chaîne de diffusion en continu de la Russie a été interdite dans l'espace européen et son signal a été brouillé. Même Google l'a brouillé également, a brouillé toutes leurs vidéos. Vous voyez ? C'est quand même particulier, c'est quelque chose qui nous montre ou bien qui nous prévient de ce qui va arriver dans quelques années ici en Europe. Parce que de plus en plus, la Commission européenne s'affranchit de beaucoup de choses. Selon ce que moi j'ai écouté, la Commission européenne ne peut pas, ce n'est pas dans sa compétence de débloquer des fonds pour armer l'Ukraine, selon les spécialistes, ni même interdire une chaîne de télévision. Donc nous ne sommes plus en état de droit depuis très longtemps. Et la pandémie a consacré cela, nous ne sommes plus en état de droit. Et nous, en tant que croyants en Yeshua ou bien chrétiens, nous devons être avisés de ce qui va arriver. De ce qui va arriver si nous voulons véritablement prêcher l'évangile, le vrai évangile. Parce que de plus en plus, il y a des sujets qui vont être sanctionnés. Déjà au Canada, je sais que on ne doit pas prononcer certains mots comme l'homosexualité, on ne doit pas dire certaines choses sur l'homosexualité, sinon les pasteurs donc sont interdits, selon ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, sont interdits de prêche, sont arrêtés. Néanmoins, j'ai vu que la dernière fois, il y avait en pleine pandémie, crise sanitaire au Canada, il y avait un pasteur qui prêchait avec sa famille et quelques amis, et un voisin les a signalés, et ce pasteur a été arrêté. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui nous attend ici en Europe dans quelques années, où la Commission européenne va imposer que, voilà, on ne doit plus dire ça, on ne doit plus parler comme ça, et on ne doit plus, voilà. Donc, ils veulent réglementer la vie des gens, régenter la vie sociale. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui nous montre que, progressivement, donc, nous entrons dans une sorte de dictature. Et moi, je le dis toujours, et d'autres aussi le disent, que la bête, l'antichrist sortira de l'espace européen. Ça, c'est au fur et à mesure que les années progressent et que les lois sont mises en place, nous voyons que nous y allons tout droit. Nous y allons, mes frères et sœurs. Donc, c'est le moment même de nous sanctifier encore davantage, de nous délaisser de certaines choses, de nous délaisser de certains, d'abandonner, parce que c'est vraiment une vanité. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, donc j'écoutais la dernière émission de Études sur Quantique qui parlait d'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie, one life, et j'ai reçu la conviction, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, que mes yeux se sont ouverts comme ça. Alors j'ai dit avec conviction que la vie est une vanité, que vanité des vanités, que la seule vie que nous devons vivre, c'est la vie en Yeshua. Je rappelle pour nous tous que l'Éternel Dieu est la source de toute vie. Il a donné l'existence à tout le monde, mais la vie, seuls les croyants en Yeshua l'ont. Tous ceux qui sont connectés à Yeshua ont la vie en eux-mêmes, mais ceux qui ne sont pas connectés ont simplement l'existence. C'est ça que nous devons savoir. Donc, mes frères et sœurs, les temps sont mauvais et le temps du rassemblement avec le Seigneur Yeshua est proche. De plus en plus, nous y allons. Il est vrai que avec la guerre en Ukraine, beaucoup de vidéos ont fleuri sur la toile en parlant de Gog et Magog, Gog et Magog, Gog et Magog, ainsi de suite. Mais bon, moi, je voudrais dire à chacun d'entre nous que nos cœurs ne se troublent point, comme le Seigneur Yeshua lui-même l'a dit dans Matthieu 24, que nous aurons des bruits de guerre et des guerres. Mais il a dit, ne soyez pas troublés par ça. Ne soyez pas troublés. Il y aura des persécutions, des faux prophètes. Ne soyez pas troublés. Ayez le regard sur moi, a dit Yeshua. Ayez le regard, levez la tête et regardez. Je viens. C'est ça que nous devons regarder. Ne regardons pas les événements. Tout compte fait, quel que soit ce que les gens pensent, c'est l'Éternel Dieu qui a le contrôle sur ces événements. Nous avons lu la dernière fois dans 2 Corinthiens 15, le verset 6, que l'Éternel agitait les villes contre les villes, les peuples contre les peuples, par toutes sortes de calamités, et que c'est lui qui avait la main sur ces calamités, sur ces événements. De la même manière, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'Éternel qui a la main. Les nations pensent que c'est elles plutôt qui ont déclenché ces choses-là, vous voyez, par leur jeu d'alliance, leur politique, ainsi de suite. Mais non, c'est l'Éternel Dieu qui a cette situation dans la main. La Bible ne dit-elle pas que c'est l'Éternel qui fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre? Oh, mes frères, prions pour nos frères en Ukraine, les chrétiens, les croyants qui sont là-bas. Prions pour eux, que Dieu, l'Éternel Dieu, les garde et les protège. Et les garde sincèrement. Voilà. Et mes frères et sœurs, il est plus que urgent de mener une vie sainte, de nous sanctifier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, vous savez, le temple de Salomon, vous savez comment on l'appelle? Beth Amikdash. Ça veut dire le temple de la sanctification. Le temple, ça veut dire le temple de Salomon, que Salomon a construit. Oh bien oui, le Beth Amikdash, la maison de la sanctification. La maison de la sanctification, c'est ça. Donc lorsqu'on rentre dans cette maison, c'est pour se sanctifier. Ouais, c'est ce que Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, disait aux Corinthiens, bien aux Corinthiens, que on se rassemble pour devenir meilleur, c'est-à-dire pour se sanctifier encore davantage. C'est ça. Il faut que nos rassemblements nous permettent de nous sanctifier et non pour nous diviser, pour diffamer, pour faire du lachonara, c'est-à-dire les mauvaises langues, les commérages, la diffamation, que les rassemblements des chrétiens servent à la sanctification. Que lorsqu'on rentre dans les réunions de prière ou autres au culte, que lorsque quelqu'un rentre là-dedans, cette personne doit sortir plus sanctifiée qu'avant. C'est ça l'objectif. Comme le disait Paul, oui, vous rassemblez pour devenir meilleur. C'est ça, nous devons tous nous rassembler pour devenir meilleur, pour mieux connaître Yeshua, et à travers Yeshua, pour mieux connaître le Père. Et pour nous sanctifier, pour mieux connaître les frères et sœurs, puisque la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, pour mieux les connaître et nous sanctifier ensemble davantage. Ô Éternel notre Dieu, aie pitié de nous, vraiment aie pitié de nous. Donne-nous la grâce, vraiment, de voir les choses comme toi tu les vois, ô Éternel des armées, afin que nous puissions vraiment nous attacher à toi dans l'obéissance à ta parole et dans la marche sur ce chemin étroit et rocailleux, mais qui mène à la vie. Ô Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cela, nous te louons, que toute la gloire te revienne. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 6 du premier livre de Samuel. C'est très instructif. Je ne sais pas si je vais pouvoir dégager tout ce qui est dans ma tête, hein, tout ce que m'est venu en tête lorsque je méditais cette partie du premier livre de Samuel. Je ne sais pas, hein, si je pourrais dégager, mais je pense que je dégagerai quand même l'essentiel selon ce que me communiquera l'esprit. J'espère que vous trouverez d'autres informations, d'autres idées, d'autres inspirations à travers donc ce chapitre 6 qui est capital. Donc nous avons vu dans le chapitre précédent, le chapitre 5, que les Philistins, après avoir capturé l'arche de l'Éternel, l'ont amené donc dans leur pays et l'ont mis dans le temple de leur Dieu. Voilà. Et que ce Dieu dans lequel ils avaient espoir, ils avaient foi, ils pensaient que c'est ce Dieu qui leur a donné la victoire sur les Israélites, mais l'Éternel Dieu leur a prouvé le contraire, puisque leur Dieu même a été décapité avec ses mains tranchées. Ses mains ont été coupées pour montrer son impuissance par rapport à l'Éternel Dieu, le seul vrai Dieu. Donc c'est vraiment, je disais tout à l'heure, je disais dans mes commentaires précédents que c'est une grâce pour les Philistins d'avoir l'arche de Dieu avec eux. Je pense que l'Éternel l'a fait exprès, non seulement pour punir, pour juger Israël, mais par grâce pour les Philistins. Pour le bien des Philistins, il a fait cela. Pour le bien, les Philistins ne l'ont pas compris de la sorte. Ils pensent que c'est leur divinité qui leur a apporté cette victoire, qui a permis que l'arche de l'Éternel soit capturée. Donc eux, ils voulaient simplement, les Philistins voulaient ajouter la force de l'Éternel Dieu à leur divinité précédente. C'était ça, fait une synergie parce que dans leur conception, l'Éternel Dieu était comme leur divinité. Vous voyez, ils n'avaient pas cette notion, malgré qu'ils ont vu, ils ont entendu ce qui était arrivé à leur cousin égyptien. Hein? Ils ont entendu. Ben, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas perçu. De la même manière, beaucoup de gens, de frères et sœurs, ont une fausse image de l'Éternel Dieu. C'est de l'idolâtrie. Moi, c'est une forme d'idolâtrie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est, une forme d'idolâtrie, parce que l'Éternel Dieu est rabaissé à un simple objet de pouvoir, à un instrument entre les mains des Philistins. De la même manière, beaucoup, beaucoup de chrétiens utilisent Jésus comme un instrument pour atteindre le bonheur, pour acquérir des richesses, pour dénouer des situations. C'est un comportement idolâtre, purement idolâtre, mes frères et sœurs. Le Seigneur Yeshua n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Hein? Pas de rechercher des voitures, des biens matériels et autres, et autres, et autres, et autres. Tout cela vous sera donné par-dessus. Et c'est vrai. L'essentiel, c'est l'Éternel, c'est son royaume. En cherchant le royaume de Dieu, c'est le Yeshua lui-même, hein, le royaume. Bon, je m'égare un peu. Je m'égare un peu, mais bon, je reviens à 1 Samuel 6. Non seulement l'Éternel a frappé le Dieu des Philistins pour montrer aux Philistins que, bon, vous n'avez plus d'appui, c'est fini, votre Dieu n'a plus rien à vous faire, donc vous n'allez pas résister. Si votre Dieu n'a pas résisté devant moi, vous n'allez pas résister. Repentez-vous. Mais non, ils ne l'ont pas compris. Ils ont continué dans leur égarement, dans leur endurcissement. Donc l'Éternel Dieu les a jugés aussi, les a frappés de maladies. On dit une tumeur, des hémorroïdes et des furoncles et des souris qui ravageaient leur culture. Donc c'est la famine à assurer. Mais malgré cela, les Philistins n'ont pas réagi dans le sens que l'Éternel voulait. Voilà, ils n'ont pas réagi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, nous allons le voir dans le chapitre 6. On nous dit, l'arche de l'Éternel resta 7 mois. Donc nous allons étudier, commenter le chapitre 6 de 1 Samuel, du verset 1 au verset 12. Au verset 12, voilà, du verset 1 au verset 12. Je vais tout lire. L'arche de l'Éternel, je vais lire dans la version second 21. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent, que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. Les hommes consultés répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau nous a tous atteints, vous et vos princes, vous a tous atteints, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs ainsi que des souris qui ravagent le pays. Et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être ce sera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendrez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens, le Pharaon l'ont fait? Dieu est intervenu contre eux. Ils ont alors dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté de joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable, afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Décidément, ils sont incrédules à fond. C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Ils enfermèrent les petits dans l'étable. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent alors la même route en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Voilà. Beth-Shemesh. Qui veut dire maison du soleil. Ah oui, bon, maison du soleil, Beth-Shemesh. Donc là, ici, on nous apprend les mots. Chaque mot a son importance. Hein. Ici, on nous apprend quelque chose de très très important. très très important. L'arche de l'Éternel est restée chez les Philistins pendant 7 mois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de l'accomplissement. 7 mois. Quand même. Malgré cela, ouais, ça c'est la grâce de Dieu. 7 mois, l'arche est restée là-bas. 7 mois, le chiffre 7, chiffre de la plénitude, chiffre de la grâce, quand même, de la grâce même de l'Éternel Dieu. Vous savez, le monde, après l'enlèvement, aussi restera dans la main de l'Antichrist, c'est-à-dire du Satan, de Satan, Satan, l'adversaire, le diable, le diviseur, pendant 7 ans. 3 ans et demi de calme et 3 ans et demi d'agitation. Pendant 7 ans. C'est un exil, au fait. Le monde partira en exil. Puisque le monde n'a pas voulu du Seigneur Yeshua, de la gouvernance de Dieu, Dieu, l'Éternel, le livre entre les mains de l'ennemi, comme il a fait aux Israélites. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible, même le dans Ecclésias, ce qui a été sera. Dieu ramène toujours ce qui a été ou bien ce qu'il a déjà fait. Quand les Israélites désobéissaient à l'Éternel Dieu, il les a amenés en captivité. Les Assyriens, les Babyloniens les ont amenés en captivité. 70 ans, ils sont restés à Babylone. Donc, le monde aussi actuel, après l'enlèvement des chrétiens, va rester 7 ans entre les mains de l'ennemi. En exil, le monde va aller en exil, va subir la gouvernance de l'ennemi. Puisqu'ils aiment, non? Puisque le monde aime le pécheur. Puisque le monde aime le péché. Le monde aime à rejeter Dieu. Le monde aime le diable, le diviseur et l'adversaire. Le monde aime Satan. Le monde va aller expérimenter sa gouvernance pendant 7 ans. C'est ce qui va se passer. Et malgré les calamités qui vont se succéder, les hommes ne se repentiront pas. Peu vont se repentir, comme les Philistins ici. Je vous rappelle que le livre de Samuel est prophétique. Ce qui a été sera. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Instruisons-nous. Les apôtres n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils prêchaient là avec ses écrits, avec l'Ancien Testament, entre guillemets. Donc pendant 7 mois, les Philistins ne sont pas repentis. Peut-être qu'il y en a qui se sont repentis. Alors, la grâce de Dieu a pris fin. De la même manière, les 7 ans où le monde restera dans la main de l'ennemi, il va se succéder des jugements, des calamités, mais les gens ne vont pas se repentir. Et au bout de 7 ans, l'Éternel Dieu mettra fin par le retour de Yeshua et le diable sera lié pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il n'embêtera plus les gens. Et le monde, le reste de ceux qui resteront, donc, pourra vivre dans l'harmonie, dans la plénitude, dans le shalom de Dieu. Donc, au bout de 7 ans, avec les fléaux qui se sont succédés, les hémorroïdes, les tumeurs, les souris, les mulots, donc qui les souris, les rats, en tout cas, oui, qui ravageaient le pays, les Philistins ont décidé d'appeler des prêtres et des devins. Mais ils ne sont pas allés vers les Israélites pour appeler les prêtres israéliens, même Samuel, pour demander comment ils devaient faire. Mais ils ont appelé leurs propres prêtres et devins. Ils sont vraiment égoïstes. Et orgueilleux même. C'est un orgueil national, ça. Un orgueil mal placé. Ils appelaient leurs prêtres et leurs devins. Ils n'ont pas fait comme les Samaritains. C'est un problème qui s'était aussi passé en Samarie lorsque le roi assyrien a déporté les peuples, les Israélites du nord. Il les a déportés en Assyrie, puis ailleurs. Il a ramené ces peuples-là en Israël, les Samaritains. Et comme les Samaritains n'arrivaient pas à obéir à l'Éternel Dieu, la terre avait commencé par les vomir. Il y avait des calamités, des catastrophes, les bêtes féroces se sont multipliées. Et le roi a demandé à ce que des prêtres quittent, des prêtres qui connaissent l'Éternel Dieu, qui connaissent le culte de l'Éternel Dieu, de retourner en Israël, à Samarie, pour pouvoir enseigner au peuple comment adorer l'Éternel Dieu. Les Philistins, eux, ne l'ont pas cherché. Ils sont très orgueilleux, très attachés à leur culture, très attachés à eux-mêmes. De la même manière, certaines personnes pensent qu'ils peuvent adorer Dieu à leur manière. Donc ces Philistins ont appelé leurs prêtres et leurs devins pour demander, mais comment faire pour faire cesser le jugement de Dieu? Comment faire pour renvoyer l'arche de l'Éternel en Israël? Parce que ils ont vu que si l'arche restait encore, voilà, c'est eux qui disparaîtront. Donc ils ont résolu, au bout de 7 mois, de renvoyer l'arche chez elle. Alors les prêtres qui connaissent à peu près des pratiques spirituelles et culturelles, ont dit au prince des Philistins, il y en a 5, que l'arche de l'Éternel ne pouvait pas retourner donc en Israël sans sacrifice. Sans sacrifice. Voilà, sans sacrifice. Puisque les Philistins vivaient dans le péché, vivaient dans l'idolâtrie. Donc, ils devraient faire un sacrifice de culpabilité. C'est ce que les prêtres et ces devins leur ont dit. Peut-être qu'eux aussi, ils ont entendu cela. Ou bien, ils ont appris. Ou bien, de par leur pratique idolâtre, ils savent que si une divinité est à l'occasion d'un fléau, il faut apaiser cette divinité. Vous voyez que les Philistins n'ont pas changé, leur état d'esprit n'a pas changé. Pour eux, ils ont rabaissé l'Éternel Dieu, le seul vrai Dieu, au rang des divinités païennes. Mais oui, jusqu'à demander à des prêtres païens comment faire pour envoyer l'arche du Dieu un, de l'Éternel Dieu, en Israël. Et ces prêtres-là les ont égarés. De la même manière, beaucoup de gens aujourd'hui sont égarés par des pasteurs, des bishops, en plus avec des titres ronflants, des archibishops, des soi-disant prophètes et autres, des faux, quoi. Des nuées sans eau, des tonneaux vides, à qui l'Éternel n'a jamais parlé. Ils disent des choses que les gens doivent faire pour avoir la puissance, pour avoir la guérison, pour avoir une bénédiction financière. Il y a vraiment des formules. Que faire? Comment faire pour entrer dans la bénédiction de Dieu? Voilà, la bénédiction plaît à beaucoup de gens. Lorsqu'on demande aux gens de venir prier et jeûner, ils ne viennent pas. Mais lorsqu'on dit, ah oui, venez, vous serez bénis. Il y a un prophète qui vient, vous allez voir. Tout le monde accourt de 4 coins du pays. L'être humain n'a pas changé. Donc c'est prêt à dire. On dit donc au prince des Philistins de fabriquer des tumeurs en or et des souris en or. C'est-à-dire que l'objet de leur jugement. donc le caractère de leur jugement, de prendre donc de faire une représentation de leur mot, voilà, de leur mot, du jugement, pour pouvoir apaiser l'Éternel Dieu. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont, peut-être ils ont eu dire ce qui s'est passé nombre 6, 35, je ne sais plus, hein, sur le serpent d'airain. Je ne sais pas, hein, peut-être que ils ont eu des nouvelles, ils ont eu des échos, puisque lorsque le serpent tuait des gens, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse de faire une représentation du serpent brûlant et que quiconque le regarderait serait guéri. Peut-être qu'ils ont eu vent de ça et ils ont demandé donc au prince des Philistins d'offrir donc une représentation de leur tumeur en or et une représentation aussi des souris en or à l'Éternel Dieu. Or, ce n'est pas ça le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité, si nous voyons dans Lévitique 5, le verset 14, on nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut. C'est vrai, ils auraient pu faire venir un prêtre ou bien Samuel d'Israël pour venir récupérer l'arche et faire les sacrifices nécessaires. Mais non. Mus par leur orgueil et leur égoïsme, ces Philistins-là n'ont pas voulu aller s'humilier devant Israël pour pouvoir se sortir de leurs difficultés. Donc, ils ont fait confiance à leurs devins et prêtres qui leur ont suggéré une pratique idolâtre, alors que le sacrifice de culpabilité passait un bélier sans défaut qu'on offre. Donc, ces prêtres-là les ont égarés. De la même manière, beaucoup de personnes ne veulent pas obéir à l'Éternel Dieu aujourd'hui. Même dans l'église, ils ne veulent pas obéir, ils veulent servir Dieu à leur manière. Or, l'Éternel Dieu est souverain. Il dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. À personne, il ne donnera sa gloire à personne. Il est souverain. C'est ce que nous devons savoir. Nous ne pouvons pas servir l'Éternel Dieu à notre manière. Vous voyez, c'est ce que l'Éternel Dieu a montré à Moïse et à Aaron depuis le Sinaï. C'est comme ça que tu dois faire. Il dit à Moïse, tu construis le tabernacle d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Vous voyez, tout a été codifié, les dimensions, ainsi de suite. On ne peut pas servir Dieu à notre manière. On ne peut servir Dieu qu'à sa manière. Parce que les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Et aujourd'hui, dans les dénominations, il y a bon nombre de pratiques pseudo-bibliques. Et la dernière en date, c'est de couper la tête aux démons. C'est de fusiller les démons, c'est de les hacher menus. Les gens prennent des fourchettes pour aller à la croisée des chemins, ou des fusils même, ils sont en tenue militaire, se dit général de Dieu, colonel de Dieu, capitaine, ils sont en tenue d'apparat, avec des épées. L'Éternel Dieu, que mon peuple périt faute de connaissance. Heureux s'il observe la Torah, l'enseignement. Heureux s'il observe la loi, s'il observe la Torah, l'enseignement. Mes frères et sœurs. Donc ces Philistins-là ont décidé que voilà, ils vont offrir à l'Éternel Dieu 5 tumeurs et 5 souris. Voilà. Et 5 souris, voilà, représentant les maux qui les frappaient.
Hein? Voilà, donc on leur a dit de faire des simulacres de leurs hémorroïdes et des mulots qui ravagent le pays et de les offrir en hommage au Dieu d'Israël. Peut-être ce sera-t-il de faire peser sa main sur vous et sur votre Dieu, votre pays. Ouais. Ils tentent, ils doutent, ils sont dans le doute, ils ne savent pas, ils disent donc peut-être que ce n'est pas l'éternel Dieu, peut-être que c'est au hasard. Voilà, ils ont fait un test avec Dieu. Ouais, ces prêtres-là, ils sont dans une pensée idolâtre. Mes frères et sœurs, idolâtre. Nous ne pouvons pas choisir notre propre manière d'honorer l'éternel Dieu. Et nous devons le servir comme il le désire. C'est pourquoi il est important de rester connecté à l'éternel Dieu par l'Esprit Saint. Il est important que ce soit l'Esprit Saint qui dirige. C'est ce que Yeshua a dit, que celui qui est né de nouveau est né d'esprit. Celui qui est né de nouveau est conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Celui qui est rempli, baptisé d'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Et nous ne devons pas négliger cette dimension-là. L'Esprit de Dieu, c'est lui que Yeshua nous a laissé. Il a dit aux apôtres, il vous conduira dans toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il nous conduira dans toutes choses. Jusqu'aujourd'hui, c'est à l'Esprit de nous conduire. Les Philistins auraient pu aller directement en Israël, demander comment faire. Non. Ils ont préféré faire confiance à leurs prêtres. De la même manière aujourd'hui, certaines personnes considèrent les paroles, les prédications de leur pasteur plus que ce que dit la Bible. J'ai écouté un extrait d'un pasteur vraiment rempli d'orgueil, dit écoutez-moi. N'allez pas faire autre chose. Écoutez-moi. Mettez votre foi en moi et moi, je mettrai ma foi en Dieu pour vous. C'est quel évangile, ça? Oh. Et les gens disent amen. Les gens applaudissaient. Oh, pauvre de nous. Oh, au secours, Yeshua. Donc voilà ce qu'ont fait les Philistins, voilà ce que font également d'autres personnes. Hein. Ils veulent servir Dieu, pas à la manière de l'éternel Dieu, mais à leur propre manière. Ah, voilà, à leur propre manière. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire ce que l'éternel Dieu dit. Ils veulent faire à leur manière, puisque peut-être que ça leur apporte des bénéfices. Donc ils veulent faire à leur manière. Hein. Même si ici les prêtres ont quand même rappelé aux Philistins ce qui était arrivé aux Égyptiens. Voilà, ce rappel-là est très, malgré que les Philistins ont eu vent de ce qui s'est passé avec les Égyptiens, mais non, eux aussi ils ont persisté dans la désobéissance, ils ont persisté dans leur cécité. Ils ont persisté dans leur cécité. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de gens remettent en cause l'existence même de l'éternel Dieu. Parce que ils disent que c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Occidentaux, c'est pas leur Dieu en Afrique et dans d'autres pays. Même ici, hein, en Occident, en France, les gens ne croient plus tellement en Dieu. Hein. C'est fini, ça. Si vous proclamez votre foi, on vous regarde comme un attardé mental. Mais oui, un attardé mental. C'est comme ça. On vous présente. Hein? Les gens préfèrent consulter des sites autres, d'autres divinités, que de venir à l'éternel Dieu. Et c'est pourquoi il y a tout ce désarroi en Europe ici. Hein? Les gens sont devenus complètement... Les gens sont complètement perdus. J'allais dire un mot, mais bon, je ne vais pas le dire. Les gens sont complètement perdus. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. En guillemets, il n'y a pas de saint à qui se vouer, mais c'est la formule consacrée. C'est pour cela que je le dis. On ne se voue pas à un saint, c'est de l'idolâtrie. Voilà, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a que Yeshua seul, Jésus-Christ, Jésus le Messie, Jésus-Christ, Jésus le Messie, Yeshua HaMashiach, qui est le seul intermédiaire entre l'éternel Dieu et l'humanité. Quiconque passe par lui accède à la vie éternelle. C'est ça. Donc c'est par ce sacrifice de culpabilité que les Philistins normalement devraient bénéficier de la grâce de Dieu, du pardon de l'éternel Dieu, mais que nenni, ils ont préféré agir selon leurs idées, selon leur propre vue des choses, selon leur conception idolâtre, parce que pour eux, l'éternel Dieu n'est qu'une divinité d'Israël, n'est qu'une divinité simple, mais ils ne le considèrent pas comme le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. De la même manière, beaucoup de personnes remettent en cause, parce que, bon, c'est le Dieu d'Israël, ils disent. Ben oui, c'est le seul vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il a démontré, il a dit, il a annoncé à l'avance des choses qui sont passées. Même le fait même que Israël soit un pays aujourd'hui est un miracle. Où sont les Égyptiens? Où sont les Perses? Où sont les Sparques? Où sont les Hittites? Où sont encore les autres peuples, les Cananéens d'aujourd'hui sont-ils? Tous ces peuples ont disparu, mais les Juifs sont toujours là. Donc Israël est le témoin de l'éternel Dieu, est le témoin même de l'existence, est la preuve irréfutable que l'éternel Dieu existe. Parce que l'éternel Dieu a fait des prédictions qui se sont réaliser toutes. Personne ne peut prédire ces choses-là. Par exemple, personne ne peut prévoir que Yeshua allait naître à Bethléem. Personne ne peut. Aucun humain ne peut prévoir, quelle que soit son intelligence. C'est la preuve irréfutable, Israël, que l'éternel Dieu existe. Hein? Le simple même fait que l'évangile aujourd'hui s'est répandu dans le monde entier, c'est la preuve aussi irréfutable que l'éternel Dieu existe. Parce qu'une entreprise humaine ne pourrait jamais faire ça. Même les codes de la Bible, l'organisation des versets de la Bible prouve que l'éternel est le seul vrai Dieu. Donc ces Philistins sont appelés à ne pas endurcir leur cœur comme les Égyptiens l'ont fait. Donc, ils continuent, ces prêtres et devins, dans leur conseil, ils ont dit donc aux Philistins de fabriquer un char tout neuf, et d'y atteler deux vaches allaitantes. Vous savez que les vaches n'abandonnent jamais leurs petits. Mais ces Philistins ont voulu tester l'éternel Dieu. De la même manière, beaucoup de gens veulent tester Dieu. Ils veulent tester Dieu, ils veulent faire un test pour voir si c'est vraiment... Malgré tout ce qui s'est passé avec leur divinité, ouais, ils disent que c'est le hasard. De la même manière, lorsque les catastrophes arrivent aujourd'hui, oh, les gens disent, oh, ça a toujours existé, c'est le hasard. Pandémie, oh, pour la première fois, le monde entier a été soumis aux mêmes contraintes, au même moment, et les gens disent que non, que c'est un hasard. Ça a déjà été, ainsi de suite. Si le hasard existait, ce serait par hasard, mes frères et sœurs. Le hasard, donc, n'existe pas. Si le hasard existait, un jour le soleil se leverait à l'ouest. Mais oui. D'accord? Donc voilà. Ouais, malgré cela, ils n'ont pas cru, hein. Ils ont voulu faire un test. Ils sont dans le doute. C'est ça le comportement idolâtre. Le doute, malgré l'évidence. Parce qu'ils ne voulaient pas croire dans le Dieu d'Israël. Croire dans le Dieu d'Israël. Ils disent que c'est la ruine. C'est un désastre pour eux. Ouais. Et puis, il y a aussi l'action de l'ennemi, hein, qui les aveugle. Qui ne veulent pas qu'ils se convertissent pour qu'ils aient la vie sauve. D'accord. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des conceptions bizarres sur l'Éternel Dieu, ne veulent pas faire ce qu'ils désirent. Ils veulent faire le contraire ou bien ce qu'eux-mêmes ils pensent. Hein? Ils pensent ce qu'ils pensent qui va plaire à l'Éternel. Ils veulent faire selon leur envie. Voilà. On n'a jamais demandé à l'Éternel Dieu sur le culte que nous le rendons chaque dimanche s'il approuvait ce culte-là. Vous avez déjà posé la question à l'Éternel Dieu? Mais non. De peur de se voir rabroué, de peur de se voir dire que non, c'est pas ça. Vous savez, un jour, on était en prière et jeûne, on priait. Alors, il y a une prophétie qui était sortie qui disait que c'est pas les travaux qu'il faudrait faire. C'est pas les travaux. Effectivement, le pasteur en question n'avait pas rebondi sur ça. Hein. Il n'a pas rebondi parce que la prophétie a mis en cause les travaux qu'il faisait dans l'assemblée. D'abord, construire le cœur des gens, pas les travaux. Les travaux, il ne restera pas pierre sur pierre, a dit la parole. Il ne restera pas pierre sur pierre. Lorsque les catastrophes vont venir sur ce monde, mais ces assemblées n'existeront pas plus. Hein. Ou bien même, lorsque l'église sera enlevée, ben, personne ne pourra plus se rassembler. Les lois seront telles que la Bible peut-être sera interdite. Hein. Comme en tout cas, aujourd'hui, on a les moyens. On peut te bloquer, on peut bloquer ton compte en banque, on peut te mettre complètement à genoux, on peut t'empêcher de prendre de l'essence, on peut t'empêcher de faire beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. On m'a bloqué de partout, tout ça, là. Moi, j'ai vécu ça. D'accord, donc, mais ce n'est pas... Bon, j'ai vécu ça, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. D'accord? Ou tu cliques pour aller sur tel site professionnel et tu étais bloqué, quoi. Tu ne pouvais pas accéder. Alors que tu as toutes tes coordonnées, hein? Toutes tes coordonnées, ton mot de passe, ton mot secret, ainsi de suite. Mais impossible de se connecter. Erreur, on te met erreur telle. On peut. Et puis l'histoire avec la Russie nous montre que l'Europe, en tout cas les grandes puissances, qu'aujourd'hui il y a des moyens pour bloquer quelqu'un, pour tuer socialement quelqu'un. Et c'est ce qui va se passer lorsque certains croyants vont rester sur cette terre. Lorsque le monde ira en exil, avec l'anti-messie, en exil, ce sera un exil, ou bien qu'on appelle la période des tribulations. Voilà, le monde sera en exil, dans une sorte de satanistan, au diabolinistan. Et ces philistins sont durs, hein, vraiment durs, endurcis, incrédules. Malgré tout ce qui leur arrive, ils ont encore voulu faire un test, voir si c'est l'Éternel qui les juge ou pas, si c'est pas lui ou bien si c'est par hasard que ces choses-là leur arrivent. Ouais, ils sont vraiment endurcis, ces gens-là. Donc ils ont dit donc aux Philistins donc de construire un char et de mettre l'arche de l'Éternel dessus avec leurs offrandes dans un autre coffret, de mettre deux vaches allaitantes. Vous savez que les vaches n'abandonnent pas leurs petits. Hein? Ils veulent tout mettre en œuvre pour prouver que c'est pas l'Éternel Dieu. C'est ça. Parce que si ce n'était pas l'Éternel Dieu qui a autorité sur les animaux, les vaches allaient retourner vers l'étable pour chercher leur petit. Mais l'Éternel Dieu a réussi le test de ces idolâtres. Avant même qu'il ait conçu ce plan, il le savait déjà. Donc les vaches sont allées tout droit devant elles jusqu'à la frontière philistine où ils sont rentrés dans la ville de Beth-Shemesh, la maison du soleil. Les vaches sont rentrées là-bas. Elles sont rentrées là-bas. Elles sont parties en Israël sans se détourner de leur chemin. Ça, c'est vraiment un miraculeux. Ça prouve que c'est l'Éternel Dieu seul qui peut faire ça. Qui commande. Quel est donc les apôtres étaient étonnés lorsque Yeshua avait calmé la tempête et le vent et la mer et le vent. Ils ont dit, qui est cet homme qui a autorité même sur les vents et sur les vagues, sur la tempête? L'Éternel, notre Dieu, a autorité sur tout, mes frères et sœurs. Donc, ayez confiance en lui. Ne désespérons pas. C'est lui qui a le contrôle des événements de ce monde. Hein? Nous cherchons d'abord le royaume et la justice de l'Éternel Dieu. Cherchons simplement d'abord le royaume. Mes frères et sœurs, ne désespérons pas. Ne vivons pas dans la crainte. C'est l'Éternel qui a la main sur ces événements. Pas l'ennemi, ni l'anti-messie. L'anti-messie lui-même est soumis à l'Éternel Dieu. Il ne peut faire, même l'ennemi ne peut faire que ce que l'Éternel l'autorise à faire, pas autre chose. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. C'est lui, celui qui s'appelle « Ça suffit, El Shaddai. Ça suffit, El Shaddai. » Arrivé un moment, ça suffit. Avec autorité, c'est lui qui a la puissance sur les événements, qui a la main sur les événements, qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle. C'est pas l'ennemi qui contrôle. C'est pas les Philistins qui contrôlent ici. Ne soyons pas comme des Philistins. Demandons vraiment à Dieu, à l'Éternel, de nous enlever cette pensée d'idolâtrie, ce comportement d'idolâtre, hein, que nous avons, hein, voyez, que nous avons. Dieu, l'Éternel Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Il a même dit à Israël, c'est de leur cœur, c'est l'obéissance, c'est un sacrifice d'obéissance qu'ils cherchent. Et le fait que les vaches soient parties directement vers la frontière à Beth-Shemesh sans se détourner, sans faire quoi que ce soit, sans que l'arche tombe, sans renverser, ont finalement prouvé. Ces faits ont prouvé aux Philistins que c'est le jugement de Dieu qui les a frappés. C'est le jugement de Dieu qui les a frappés et non un hasard. Que ce n'est pas dû au hasard. Voilà. Et que ces bœufs-là, ces vaches ne se sont pas écartées ni à droite ni à gauche. Vous voyez? Parce que l'Éternel Dieu dirigeait toutes choses. Et les princes des Philistins marchaient derrière les vaches jusqu'aux confins de Beth-Shemesh. Jusqu'à ce que les vaches franchissent la frontière. Mes frères et sœurs, notre Dieu qui dirige là. Il dirige, c'est lui qui dirige là. Aucun événement ne peut lui échapper. C'est ce qu'il a prouvé là par là. Parce que la Bible nous rend témoignage. Je lis le verset 11. Et l'on mit l'arche du Seigneur sur le chariot, ainsi que le coffret contenant les milots d'or et les simulacres d'hémorroïdes. Les vaches marchaient droit. Ce monde aussi va marcher droit. Personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper. Les hommes pensent que c'est eux qui dirigent, que c'est eux qui font les événements, que c'est eux qui décident de quoi que ce soit. Mais non. Tout est sous le contrôle de l'Éternel Dieu. Ben oui, Tout est sous le contrôle de Dieu. Je ne dis pas que nous sommes des robots, hein, mais c'est-à-dire tout ce que les gens vont décider, rien ne pourra aller au-delà de ce que l'Éternel permet. Sachons-le, puisque c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui est le garant de ce monde. C'est lui qui tient le monde. C'est ce que la Bible nous dit que c'est Yeshua qui tient le monde. C'est l'Éternel Dieu qui tient le monde entre ses mains. Entre ses mains, à travers Yeshua. C'est lui, la parole, le Logos, qui tient ce monde. C'est lui qui tient ce monde. Les vaches ont marché tout droit, sans s'écarter. Ils se marchaient tout droit dans la direction de Beth-Shemesh. De la même manière, ce monde marche tout droit vers son terme, vers l'effondrement. Mais oui, vers l'effondrement total. C'est ce qui va se passer. Parce que, au vu de ce qui se passe actuellement, partout dans le monde, vous savez, partout dans le monde où la vérité est prise pour le mensonge et le mensonge est pris pour la vérité. La vérité est prise pour le mensonge. Où la vérité devient mensonge et le mensonge devient vérité. C'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux, les médias, les multiples supports numériques aujourd'hui. On peut tout manipuler. On peut tout manipuler. Tout est manipulable. Tout est manipulable. On peut orienter les gens dans une certaine direction. Il suffit qu'on répète les mêmes informations pendant plusieurs semaines, voire mois, et les gens vont finir par croire que c'est la vérité. Mes frères et sœurs. Donc, les vaches suivirent toujours une même voie, tout en mugissant. Toutes ont suivi toute une même voie, sans se détourner, sans s'écarter, et ne s'en écartèrent ni à droite, ni à gauche. Ni à droite, ni à gauche. Seul l'Éternel Dieu peut faire ça. L'Éternel Dieu a réussi le test à montrer aux Philistins que c'est lui qui détient ces événements, que c'est lui qui les frappait. D'accord? Mais ça, c'est encore un miracle, ça. L'Éternel Dieu a dirigé les choses. Les vaches ne sont pas revenues en arrière, mais elles sont allées tout droit vers Beth-Shemesh. C'est ce que la Bible nous dit. Sans s'écarter. C'est un miracle, sans s'écarter. En plus des vaches allaitantes, sans s'écarter. Mes frères et sœurs, de la même manière, si nous avons foi en lui, en Yeshua, mais nous marcherons dans ce monde sans nous écarter. Sans nous écarter de sa parole, sans nous écarter de sa voix, sans nous écarter de son chemin, puisque c'est lui le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Emet, c'est important. Il est le chemin. Chemin veut dire aussi Torah. La vérité, Emet, et la vie, Haïm. Voilà, et la vie. Ceux qui croient en lui ont la vie en eux-mêmes. Ceux qui ne croient pas ont l'existence, ils n'ont pas la vie. Ils rendront compte à la fin de leur vie. De la même manière, si nous nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu, nous marcherons tout droit dans la parole de Dieu, sans nous écarter ni à droite ni à gauche. Que le Éternel Dieu nous garde et nous bénisse et nous donne la grâce vraiment de marcher dans l'obéissance. Celui qui marche dans l'obéissance marchera toujours droit. C'est ce que l'Éternel a dit à Abraham. Maintenant, ça suffit. Marche devant moi et sois intègre. Maintenant, ça suffit. Le Dieu El Shaddai, l'Éternel El Shaddai, dit maintenant, ça suffit, Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Et sois intègre. Ces vaches ont marché tout droit sans écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à en Israël. De la même manière, si nous aussi nous sommes vivants dans l'obéissance, nous marcherons tout droit jusqu'à ce que la trompette sonne. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et nous garde. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Et à bientôt. Je suis obligé de m'arrêter ici, hein, parce que sinon ça va être...